Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Juliette Gadeau, Clément Salazar, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Stéphane Poitevin. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo, journaliste au Monde, bien sûr. On va parler aujourd'hui du Brexit. Cette semaine, la Première ministre britannique a formulé ses souhaits quant à la manière dont elle entendait se désengager de l'Union européenne. Plus de marché unique, mais un nouvel accord douanier, la fin de la libre circulation des personnes, mais la possibilité de laisser les capitaux transiter afin de pas trop affaiblir la City. Bref, Londres se charge de tirer les bénéfices du retrait pendant que Bruxelles se charge du fardeau des concessions. C'est en tout cas en substance l'analyse d'un certain nombre d'Européens comme Guy Verhofstadt, chef des libéraux au Parlement de Strasbourg, qui a dénoncé l'illusion qu'on pourrait sortir de l'Union tout en conservant ses avantages. Quoi qu'il en soit, le chemin sera long et difficile et les obstacles nombreux pour Theresa May. D'abord parce que son plan pourrait être soumis au vote au Parlement et que pour l'heure, rien ne garantit qu'il l'acceptera. Par ailleurs, deux des quatre nations consécutives du Royaume-Uni, l'Écosse et l'Irlande du Nord, refusent toujours de quitter l'Union et entendent bien tout faire pour l'éviter. Pour évoquer les perspectives et les enjeux d'une lutte fratricide entre Londres et les capitales européennes qui va pouvoir désormais s'ouvrir après le discours de Theresa May qui en a fixé les modalités, quel est le rapport de force entre les deux parties, quels sont les atouts, les faiblesses respectives de ces deux parties pour l'Europe, mais aussi pour la Grande-Bretagne, bien sûr, qui devra faire face à l'opposition de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, qui s'oppose toujours au Brexit, je le disais, mais avec des alliés nouveaux aussi, peut-être inattendus. On pense à Donald Trump qui, pour la première fois dans l'histoire, semble opposé à l'intégration européenne, dont il parie qu'elle va bientôt tomber en lambeaux. Pour évoquer ces sujets, deux invités. D'abord, Pauline Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, directeur de l'Institut Jacques Delors. Mais avant d'évoquer toutes ces discussions, d'abord place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Mali, c'est Maria Malagardis. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Maria Malagardis. Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des questions africaines. Vous êtes allée à Bamako à l'occasion du 27e sommet Afrique-France à laquelle s'est rendu François Hollande et en a profité pour faire une escale à Gao sur la base opérationnelle de la force Barkhane, l'heure donc du bilan de l'action française en Afrique pour le chef de l'État lui aussi sortant. On parle beaucoup de Donald Trump et de Barack Obama, mais pour nous aussi, d'une certaine manière, c'est la sortie pour François Hollande. Je parlais de Gao. Mercredi dernier, il y a 77 personnes qui ont été tuées dans l'explosion d'un véhicule piégé à l'intérieur d'un camp militaire de Gao où étaient rassemblés des combattants maliens du mécanisme opérationnel de coordination qui rassemble des individus de l'ex-rébellion Touareg, des milices d'autodéfense pro-gouvernementale, mais aussi de l'armée nationale. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis l'accord d'Alger de juin 2015. On reviendra bien sûr sur cet accord. Il a été immédiatement revendiqué par le groupe Al-Mourabatine affilié à l'ACMI, à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Malheureusement, Maria Malagardis, ce tragique événement, il est tout sauf une surprise. Il y a encore quelques semaines, il y a eu toute une série d'attaques qui ciblaient les unités de l'armée française, mais aussi de la mission onusienne. Encore très récemment, le groupe justement Al-Mourabatine, dirigé par ce vétéran du djihad, Mokhtar Belmokhtar, qu'on connaît, dit le borgne, qui avait lancé une série d'attaques contre l'aéroport de Gao. Cet attentat, c'est le résultat d'un harcèlement quasi permanent des groupes djihadistes qui, on le sent bien, non seulement n'ont pas disparu, mais semble reprendre de la vigueur en réalité, Maria Malagardis.
Oui, ils n'ont pas du tout disparu. Et juste une précision, c'est l'attentat le plus meurtrier non seulement depuis 2015, mais depuis 2012. Mmh. C'est-à-dire depuis le début des troubles au Mali. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement la facilité avec lesquelles ces groupes, qui ont certes quitté les centres-villes, avec lesquels ces groupes continuent à pouvoir se déplacer et conservent quasiment intact leur pouvoir de nuisance. C'est d'autant plus inquiétant que Gao est censé être la zone la plus sécurisée du Mali, puisqu'on a...
C'est là où la présence est la plus forte.
Ouais, c'est là où la présence et des casques bleus de la MINUSMA est la plus forte, et bien sûr du dispositif français, puisqu'on a 1500 hommes, 1500 militaires qui sont postés dans un camp militaire à la sortie de Gao.
Alors comment expliquer ces troubles? Parce que rappelons quand même les choses, à son arrivée au Mali, l'intervention française qui s'était faite, on s'en souvient, à la demande des autorités maliennes, l'armée française était quand même parvenue à repousser les djihadistes. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle est dépassée, incapable de garantir la sécurité dans cette région. Pour quelle raison ?
Bah parce qu'on se heurte au fond du problème là, aujourd'hui. D'abord, une solution militaire était illusoire dès le départ. On est dans un pays extrêmement pauvre où les problèmes sont loin d'être nouveaux. Problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes culturels aussi, parce qu'on a laissé pendant des années et des années les pétromonarchies sponsoriser des constructions de mosquées, des constructions d'écoles coraniques, sans que personne ne dise rien. Aujourd'hui, le gouvernement ne dit toujours rien par rapport à cette influence qui existe toujours. C'est des zones déshéritées depuis très très longtemps, où effectivement, si on vous donne 100 euros pour aller poser une grenade, pourquoi le refuser ?
Et c'est ce que vous dit un habitant de Tombouctou qui est venu à Bamako, exactement ça. Ouais. Si on donne 100 euros à un jeune qui, de toute façon, n'a aucune perspective pour aller déposer ça sur un véhicule militaire, il va le faire.
Évidemment, il va le faire. Il va le faire. Et puis, par ailleurs, il faut savoir que ces groupes djihadistes qui ne sont pas, semble-t-il, populaires au sein de la population, mais ils sont menaçants dans des zones où l'État est totalement absent. Donc, quand on voit arriver, débarquer un groupe de djihadistes qui, et ça c'est aussi une tendance nouvelle, punissent les collaborateurs de l'armée française ou des casques bleus en les tuant, les exécutant, et qu'à côté de ça, d'une main ils tuent, de l'autre ils distribuent des médicaments, c'est très compliqué pour les gens de parler, de dénoncer. Il y a un Touareg que j'ai rencontré peu après ma visite à Gao, puisque j'étais en même temps que Hollande, avec qui on évoquait ces questions-là.
Redouane,
qui vient du Nord, et qui me disait, je disais, mais pourquoi les gens ne parlent pas ? Il me dit, je vais te raconter une histoire. Il y a un vieux berger qui a un puits juste au nord de Tombouctou. Et il n'y a pas très longtemps, Barkhane est passé par cet endroit, et ils ont vu des traces de pneus, ils lui ont dit, qui est passé avant ? Et le vieux leur a dit, je ne vous dirai pas. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, parce que, de la même façon, je ne dirai pas aux autres, et on comprenait très bien qui c'était, que vous êtes passé quand ils verront vos propres traces de puits, c'est la condition de ma survie. C'est parce qu'on sait que jamais je ne dis ce que je vois, que je peux rester seul avec ce puits. Et je crois que ça résume bien la situation. Il faut voir ce que c'est le nord du Mali. Le nord du Mali, c'est un espèce d'énorme espace de sable, de désert, avec ici et là, en dehors de villes comme Gao et Tombouctou, des campements, des petites localités. Rien que pour aller de Bamako à Gao, il faut quand même 2h30 d'avion. Donc, c'est un espace immense, très difficile à contrôler, où les gens sont livrés à eux-mêmes. Et quand ils sont livrés à eux-mêmes, c'est ce qui se passe.
Ce que vous dit justement Redouane, ce jeune Touareg, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif pour les djihadistes, c'est de s'étendre vers le centre du pays. Est-ce que c'est un objectif réalisable ? Et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller aujourd'hui ? Est-ce qu'ils peuvent aller à Bamako, faire tomber le régime ?
Mais il y a en novembre, ils ont fait une attaque de gendarmerie et de prison qui était à 2 heures seulement de route de Bamako. Hein, donc on est dans la grande périphérie. Hein, donc c'est pas impossible, c'est pas illogique. Ce que les Maliens disent quand ils parlent de ça, et notamment Redouane, disent en même temps de manière en filigrane, c'est qu'en fait ce qui se passe au Mali, beaucoup de Maliens en tout cas ont ce sentiment, est une guerre contre l'Occident. C'est pas une guerre qui concerne le Mali. L'attentat qui a eu lieu, c'était contre des militaires. Jamais, depuis 2012, les populations civiles ne sont visées. C'est pas comme Boko Haram, c'est pas comme ce qui se passe en Europe même. Jamais il n'y a d'attentat dans un marché au Mali. Jamais dans un bus. Donc, le sentiment dominant, c'est que ce qui s'y joue dans ce Sahel mystérieux, c'est une guerre entre l'Occident et les groupes djihadistes. S'ils veulent descendre vers le centre et Bamako, c'est parce que il y a certainement une stratégie de se dire, voilà, c'est un maillon faible, c'est un pays où le pouvoir reste totalement pouvoir sponsorisé, si je puis employer ce terme, par la France. En tout cas, le président élu était le favori de Paris. Pouvoir qui reste impopulaire et faible. Et effectivement, c'est un pays qui présente les conditions idéales pour finalement mener le combat, pour essayer d'aller le plus loin possible et de pourquoi pas tenter un nouvel Afghanistan au Sahel.
Mais un combat entre l'Occident et en l'occurrence la France et les djihadistes, d'accord, mais quid du reste des Maliens ? Parce qu'on se souvient quand même, quand l'armée française est intervenue, elle a été accueillie en libérateur.
Bien sûr, parce que...
Aujourd'hui, qu'est-ce que l'opinion pense justement de la présence française ? Présence
elle est partagée. Elle, je pense que tout le monde reconnaît la légitimité de l'intervention Serval en 2013. Personne ne dit ils auraient pas, ils auraient mieux fait de pas venir. Tout le monde sait que malgré tout, ça a stoppé une progression inévitable. Ce qu'il y a maintenant, c'est que avec cet enlisement quasi inévitable, disons en tout cas de facto réel, il y a aussi beaucoup de rumeurs qui circulent. Alors ça, les gens, il y a des gens qui vous disent les Français finalement est-ce qu'ils sont pas là pour des intérêts miniers économiques. Beaucoup de ces rumeurs relèvent du fantasme total. Ce qu'il y a, c'est que dans les guerres asymétriques. L'erreur, je pense, me semble-t-il humblement, des politiques, c'est qu'ils donnent peu d'explications. Donc, étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on ne voit que les événements meurtriers qui arrivent, qu'on ne comprend pas très bien quelle est la stratégie suivie, toutes les interprétations sont possibles. Donc, pour répondre à votre question, un, ils sont encore contents que les Français étaient là. Deux, tout le monde se rend compte que la façon dont cette crise est gérée n'est pas appropriée.
On va revenir justement sur la manière dont la France gère cette crise, la manière dont elle communique et ses liens avec les différents États africains. Mais d'abord, un mot sur les accords de paix d'Alger, donc de 2015. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'elle prévoyait et où on est aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de son application, ou plutôt devrais-je dire de sa non-application précisément?
Ah ben on est dans le blocage total.
Pourquoi?
Alors, pourquoi? Les accords d'Alger, c'est un véritable casse-tête où on a tenté de rallier les groupes d'une armée du Nord non djihadiste une pacification, à un accord avec le gouvernement malien. Faut savoir que plus le truc, alors tout ça sous le parrainage de l'Algérie, d'où le nom d'accord d'Alger, plus le truc tirait en longueur, plus sont apparus divers groupes totalement opportunistes, faits de 3-4 personnes qui avaient quelques kalachnikovs et un vague ancrage local.
Oui, vous racontez même qu'il y en a qui faisaient des fausses pages Facebook en disant qu'ils étaient légitimes, reconnus par la communauté internationale. Enfin,
absolument, tous les coups sont permis. C'est un espèce de poker monteur monstrueux où les groupes ont passé leur temps eux-mêmes, même ceux qui étaient légitimes, à se diviser, recomposer, re-associer. On y perd son latin. Hein. On a maintenant une quinzaine de sigles qui se terminent tous par A, qui veut dire Azawad, donc le territoire du Nord pour les Touaregs. Mais personne, je veux dire, c'est devenu totalement ingérable. Après, il y a une telle méfiance entre le gouvernement, parce que l'accord est tripartite, il y a le gouvernement, les milices pro-gouvernementales du Nord et les groupes rebelles Touareg qui étaient à l'origine indépendantistes. Donc, il y a une telle méfiance entre ces trois groupes que tout le monde passe son temps à se mettre des chausse-trappes sur des détails.
Mais parce qu'ils ont aussi des intérêts divergents, c'est aussi ça.
Oui, enfin, là aussi, comme me disait un Touareg que j'ai rencontré d'ailleurs à Gao pendant la visite de Hollande, il me disait « la guerre est devenue un business aujourd'hui ». Tout le monde a intérêt. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont intérêt. Pas tout le monde, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça dure. Parce qu'il y a des trafics. Parce que le Nord, c'est une zone où on ne fera jamais pousser des haricots verts. La seule chose qui marche, le seul business, c'est la drogue et les trafics de contrebande divers.
Donc tout le monde défend ses intérêts économiques.
Oui, bien sûr. Ouais. Et la drogue, bien sûr, profite de cette instabilité.
François Hollande, dans son discours, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage à François Hollande, déclarant, je le cite, qu'il aura été de tous les chefs d'État français celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère et le plus loyal. Est-ce que vous diriez vraiment que François Hollande aura engagé une rupture quant à la manière dont il a envisagé les rapports entre la France et les anciennes colonies africaines?
Non, rupture, c'est peut-être un bien grand mot. Hein. Le président malien est un ami personnel de François Hollande. Ils sont très proches. Et puis, en dehors de ça, effectivement, ils ont eu, sur la question malienne, beaucoup de collaboration, certainement, à leurs yeux, positive, et certainement en partie, oui. La France-Afrique existe toujours. Bien sûr, on n'est plus dans la période, Chirac et même Sarkozy, ou des réseaux purement business et très cyniques, tirer les ficelles de beaucoup d'affairisme en Afrique.
Mais on continue de soutenir des présidents dont la légitimité démocratique est quand même très relative. Je pense à Ali Bongo, je pense à Idriss Déby, je pense
en fait, on a plus de politique.
Soutient, vraiment.
En fait, il n'y a plus de politique. C'est ça qui est... Enfin, la seule, on a l'impression que Hollande a eu une révélation au Mali qui a été ça, la révélation de sa posture de chef de guerre. Tout commence là. Hein. Il ne faut pas oublier que le 2 février 2013 à Tombouctou, il dit que c'est le jour le plus important de ma vie politique. Ce qui est quand même pas une déclaration qui est quand même pèse ton poids. Donc là, il a sa révélation de chef militaire. En Afrique, et même, on l'a vu ailleurs, cette posture militaire, il va l'endosser avec visiblement une ivresse et un enthousiasme qui ne s'est jamais démenti. Et pour le reste, tout a été vu à cette aune-là, en tout cas en Afrique. Nos intérêts militaires nous poussent à nous allier avec Idriss Déby. Il est là depuis 26 ans. Il fait en avril 2016 des élections totalement truquées, en emprisonnant tout le monde, en coupant Internet. C'est pas grave, c'est la sécurité qui prime. Et tout est vu à cette aune-là.
Idriss Déby, pareil. Denis Sassou Nguesso, pareil.
Le truc, c'est que ça aboutit à un vide total, parce que Bongo, il n'y a pas le Gabon, il n'y a aucun challenge sécuritaire au Gabon. Mais comme on est entraîné dans cette espèce de logique où l'ami de l'un est l'ami de l'autre, où on est dans des espèces de jeux de dominos, eh ben, au Gabon, ils ont, au départ, on proteste, on dit ah ben, il faut recompter.
Et puis finalement, on laisse faire.
Ouais. Voilà, on dit c'est pas grave, ça passe par perte et profit.
Maria Malagardis, tout dernier mot quand même sur la Gambie, parce que ça fait bien sûr l'actualité. Adama Barrow, celui qui devrait normalement prendre la tête du pays, parce qu'à la faveur de cette victoire électorale, quand même, il était présent, je crois, à ce sommet Afrique-France. Pour le moment, la situation reste incertaine, puisque Yahya Jammeh refuse toujours de quitter le pouvoir. Il y a un ultimatum qui a été lancé par la CDAO. Il y a des troupes africaines qui s'apprêtent à intervenir. Pour le moment, l'opération vraiment militaire est suspendue pour laisser peut-être un peu de chance aux dernières négociations. C'est quand même un scénario assez inédit là qui est en train de se profiler. C'est-à-dire qu'on a une armée voisine qui est prête à forcer le départ d'un chef d'État qui refuse de partir.
Oui, c'est assez... assez
c'est
inédit.
La première fois.
Oui, c'est sûr. Je pense que y a... ben après c'est toujours comme ça. Je pense avec la géopolitique, il y a ceux qui ont un alignement des étoiles extrêmement négatif qui permet en plus à tout le monde de se donner une bonne conscience démocratique. Et tant mieux. Hein, je dis pas ça cyniquement parce que effectivement, au sommet Afrique-France, où on avait quand même une collection de dinosaures africains, enfin les mêmes, hein, toujours, qui étaient présents. Finalement, bon, bah, tous ont soutenu l'idée que Yahya Jammeh doit partir et que Adama Barrow est le président légitime. Donc,
il va partir. Il va partir, vous pensez?
Alors, Yahya Jammeh, on peut jamais savoir, si je puis dire. Pour répéter le, c'est quand même un personnage ubuesque, assez imprévisible, qui a été capable d'excès. Assez unique, même sur le terrain africain. Donc, tout est possible. Il avait commencé par reconnaître sa défaite.
Absolument, hein, dans un premier temps. Donc, le retournement était totalement...
Avant de changer d'avis et de décider, je reste. Donc,
merci beaucoup, Maria Malagardis, d'être passée dans nos studios. Je rappelle, journaliste à Libération, chargée des questions africaines. Un grand merci d'être venue dans nos studios.
Merci à vous.
Magnifique voix d'Oumou Sangaré qu'on quitte le Mali, qu'on se dirige du côté de Londres après l'annonce des modalités du Brexit par Theresa May. Londres versus Bruxelles, l'avènement d'une guerre fratricide pour l'interrogation.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, parce que plus de 6 mois après le vote en faveur d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, la chef du gouvernement britannique a enfin exposé l'itinéraire à suivre pour son pays.
Maintenant, je veux que la Grande-Bretagne soit en mesure de négocier ses propres accords commerciaux. Mais je veux aussi que le libre-échange avec l'Europe et le commerce transfrontalier soient le moins frictionnel possible. Mais je veux être claire, ce que je propose ne peut signifier l'adhésion au marché unique. Et si l'accès au marché unique nous était exclu, nous serions libres de changer la base du modèle économique britannique. Cela signifierait que les entreprises européennes perdraient l'accès aux services financiers de la City de Londres. La Grande-Bretagne est un pays ouvert et tolérant. Nous voudrons toujours de l'immigration, notamment de l'immigration hautement qualifiée. Nous voudrons toujours de l'immigration venant d'Europe. Et nous accueillerons toujours des individus migrants comme des amis. Mais le message du public avant et pendant la campagne référendaire a été clair. Le Brexit doit signifier un contrôle du nombre de personnes venant d'Europe en Grande-Bretagne, et c'est ce que nous ferons.
Voilà, donc extrait du discours de Theresa May en début de semaine, contrôle de l'immigration, une sortie de l'Union et donc aussi une sortie du marché unique, un discours salué par les eurosceptiques mais critiqué par d'autres qui l'ont trouvé un tout petit peu utopiste. Donald Tusk, par exemple, président du Conseil, qui a évoqué un moment surréaliste. Merkel refusant qu'on envisage une formule d'Europe à la carte. En tout cas, ça y est, il y a des discussions qui vont pouvoir vraiment se lancer avec beaucoup d'obstacles, on va le voir. Pauline Schnapper et Yves Bertoncini sont nos invités ce matin. Marc Semo également, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Marc, ça fait plus de 6 mois qu'on s'interroge sur ce que pourrait être justement cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. On a parlé de hard Brexit, on a parlé de soft Brexit, on a de nouvelles formules, clean Brexit, smooth Brexit, enfin il y a plein de choses. Jusqu'ici, on était un peu sous le choc et un peu dans le flou. Les choses sont un tout petit peu plus clair, même s'il va falloir se pencher sur cette affaire.
Les choses sont un petit peu claires. Alors, d'abord, cette journée consacrée par France Culture à la longue marche politique des femmes, nous sommes en plein dans le sujet avec le Brexit. Parce que les deux protagonistes, finalement, d'un côté Theresa May, la chef du gouvernement, et de l'autre, on y reviendra, Nicola Sturgeon, la leader du Scottish National Party, qui est, de fait, l'autre grand protagoniste de ce qui va se passer. Alors, c'est vrai, Theresa May a fixé la feuille de route. C'est quand même un hard Brexit, sorti du marché unique européen. Elle a tenu compte du message des électeurs, qui étaient contre notamment la libre circulation des citoyens, concrètement des travailleurs immigrés. Et donc, voilà, elle en a tiré toutes les conséquences, puisque l'Europe insistait sur la nécessité de préserver les 4 libertés. Alors là, on est dans une situation paradoxale. La Grande-Bretagne est aujourd'hui, enfin sera, au bout des 2 ans de ce processus, plus loin de l'Europe que n'est la Turquie, qui, elle, fait encore partie, indépendamment de toutes les dérives autoritaires d'Erdogan, de l'Union
douanière. Oui,
alors que la Turquie, la Grande-Bretagne deviendra un pays comme les autres de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, en même temps, ce qui risque de donner le coup de grâce à ce qu'elle présentait, c'est ce rêve d'une Grande-Bretagne surfant sur la globalisation, c'est justement l'Écosse. Ce Brexit risque d'être dur, d'abord pour les Britanniques et pour le Royaume-Uni lui-même. C'est-à-dire, Nicola Sturgeon avait été resté, disons, assez possibiliste en cas de Brexit soft. Là, il est très clair. Il faut rappeler que l'Écosse a voté à 62% contre le Brexit. Là, toute sa stratégie très subtile, qui est celle d'un appel à Bruxelles, d'un appel aux Européens, ne nous abandonnez pas, risque de passer parce qu'effectivement, aujourd'hui en Grande-Bretagne, elle est en train de devenir le leader de ceux qui veulent rester dans l'Europe. Entre un parti travailliste désormais corbynisé et qui de fait est plutôt pour le Brexit et des libéraux démocrates qui resteront hors jeu, c'est de fait l'autre pivot.
Alors, Pauline Schnapper, Yves Bertoncini, on va revenir évidemment à ces obstacles internes. On va parler de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Mais d'abord, une première impression un peu générale. Parce qu'on a, quand même le sentiment que ce qu'a présenté Theresa May en début de semaine, c'est quand même une version de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne un peu irréalisable. Je disais tout à l'heure, comme si finalement la Grande-Bretagne voulait ne garder que les bons côtés du retrait, sans faire de concession aucune, Pauline Schnapper. C'est un peu l'impression qu'on a quand même, Pauline Schnapper.
Oui, je crois qu'il faut bien comprendre que c'était un discours qui était au moins autant destiné à son public, à ses électeurs, qu'aux partenaires européens. Et c'était un discours qui était finalement assez prévisible. On voyait venir depuis plusieurs semaines cette insistance sur le fait qu'il fallait absolument contrôler les frontières et revenir sur la libre circulation, ce qui forcément voulait dire renoncer à être dans le marché unique. Parce que quand on y pense, c'est quand même fou. C'est quand même les Britanniques qui sont dans une large mesure à l'origine de ce marché unique. Donc le paradoxe est quand même très fort. Donc pas vraiment de surprise de ce point de vue-là. Et surtout, une réponse à une pression réelle ou supposée, parce qu'à mon avis, les conservateurs en ce moment ont une vision qui n'est pas complètement exacte de ce que pense leur opinion. Leur opinion ne veut quand même pas non plus une déroute économique, qui est quand même ce qui les menace. Enfin bon, en tout cas, c'est l'image, c'est la volonté supposée du peuple qu'il s'agit d'appliquer. au prix effectivement d'un certain irréalisme, c'est-à-dire voilà, un discours un peu martial, même s'il est un tout petit peu accommodé de déclarations d'amitié à l'Europe.
Oui, on restera des Européens.
Voilà, on quitte l'Union Européenne et pas l'Europe. Ouais, bah oui, bon, évidemment, l'Europe, ouais, c'est la géographie. Ouais. Donc, mais il y a un décalage très clair entre ce qu'on pense que veulent les électeurs et ce qui sera possible à Bruxelles.
Yves Bertoncini, vous êtes d'accord pour dire que c'est une vision un peu surréaliste du retrait de la part de la Grande-Bretagne ?
Très optimiste, en tout cas. Il faut se souvenir que le discours de Theresa May a un titre, hein, c'est « Les objectifs de négociation ». Elle dit que ce sont ses objectifs, faut pas oublier ça. Elle se fixe des objectifs ambitieux, voilà, ça on peut le dire. Effectivement, en mauvais français, il y a beaucoup de wishful thinking là-dedans. Mais en même temps, c'est vrai, je crois que Pauline Schnapper l'a dit, elle s'est adressée à son opinion publique, elle a donné son interprétation du Brexit, vraiment son interprétation, parce que moi j'ai souvenir que beaucoup de Brexiteurs disaient qu'ils ne voulaient pas sortir du marché unique, au contraire. Elle est là, d'ailleurs c'est au début du discours, expliquer quelles sont pour elle les causes du Brexit, et donc elle dit, je vais évidemment délivrer le Brexit, puisqu'il y a eu un choix démocratique exprimé. Elle le fait d'autant plus sous pression qu'elle est faible, à mon avis, politiquement, Theresa May. Le Brexit, ça voulait dire le bazar politique dont elle a émergé, mais les Britanniques n'ont jamais voté pour voir Theresa May Premier ministre d'Angleterre, donc elle est d'autant plus, et du Royaume-Uni, pardon, elle est d'autant plus sous pression. Il y a les enjeux, effectivement, je dis Angleterre en regardant Marc Semo, parce qu'il y a des enjeux de pression interne, hein, depuis l'Écosse, notamment. Je crois que elle a aussi dû composer avec le fait que les Brexiteurs étaient divers. Il y a toujours, quand on dit non à l'Europe, des noms divers. C'est jamais le même nom. Le nom Murdoch est un nom mondialiste, libre-échangiste. Alors là, il lui a donné satisfaction en disant, de toute façon, la croissance, tout ça, c'est les BRICS, c'est le Commonwealth. Libérons-nous de cette Union soviétique, enfin, Union européenne, dirigiste. Allons faire du commerce. Et peut-être qu'à moyen terme ou à long terme, ça sera profitable pour le Royaume-Uni. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, comme dans tout divorce, ça aura des coûts. Deuxièmement, elle a donné satisfaction sur l'enjeu, effectivement, des migrants, parce que pour David Cameron, comme pour M. Farage, et visiblement pour elle aussi, il n'y a pas de différence entre un migrant français, polonais, malien ou brésilien, c'est tout la même chose. Mmh. Vous dites, elle veut garder les avantages sans les inconvénients. Là aussi, on verra en quoi le fait de valider ce prémisse de raisonnement, à savoir que l'immigration, c'est mauvais pour le Royaume-Uni, c'était juste, mais en tout cas, ça, on va dire, c'est le nom Farage. Oui, ça, c'est le nom Farage. Alors après, est-ce que elle va pouvoir, sur cette base-là, obtenir tout ce qu'elle souhaite ? Certainement pas. Il y a un peu de poker menteur. Elle a des atouts. Il y a du bluff. Elle a quand même élargi le sujet en disant, vous savez, on est un grand partenaire, y compris en matière de sécurité, de défense, de renseignement, ce qui est tout à fait vrai. La question est de savoir, et c'est là où je mentionne le bluff, la question est de savoir si d'aventure elle n'obtenait pas ce qu'elle veut, elle arrêterait de coopérer avec les Européens en la matière. Je crois qu'elle aurait intérêt à continuer quand même. Peut-être un dernier point, si vous permettez. Où elle a un point, c'est que quand elle parle d'interdépendance économique et financière, elle est en position de faiblesse sur l'aspect économique, parce qu'au fond, les Britanniques font 46% de leur commerce avec l'Union européenne, mais ces 46% sont répartis en 27. Donc on pourrait s'accommoder de problèmes sur ce sujet plus facilement à 27 que elle, qui a ses 46% de son commerce. Mais en revanche, le plan financier, oui, elle l'a mentionné, oui, il y a une interdépendance financière très forte, il y a une dépendance des Européens vis-à-vis de la City de Londres. Et sur ce sujet-là, il faudrait au moins s'entendre pour éviter une instabilité financière qui découlerait du fait que d'un seul coup, dans deux ans et demi, la City ne pourrait plus jouer le rôle qu'elle joue en ce moment, à savoir de centre financier de l'Europe et de la zone euro.
Vous dites qu'il faudrait s'entendre, ça veut dire qu'on n'est pas pour l'instant, il n'y a pas de front uni en Europe sur ce point ?
Non, mais il faut trouver concrètement s'ils sortent du marché unique, et c'est son souhait. La façon dont cette
d'échapper
place financière,
à la dépendance financière vis-à-vis
va pouvoir continuer à accéder au marché unique,
garder son passeport financier.
Voilà, exactement.
Mais, alors, mais vous pensez que quand elle dit, par exemple, il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord, elle bluffe ?
Mais elle bluffe au sens où, oui, elle présume de ses forces. Qu'est-ce que ça veut dire pas d'accord ? Elle va enclencher la procédure de divorce. Et encore une fois, elle peut assumer des coûts. Tout divorce a un coût. Le choix du Brexit n'était pas un choix économique. c'est un choix identitaire, c'est un choix souverainiste, c'est respectable, mais il faut que les gens soient conscients que ça aura donc des coûts. Quand on divorce, c'est pour des raisons psychologiques, on sait que ça va avoir des coûts, ça n'empêche pas de divorcer. Une fois qu'on divorce, c'est le cas, il faut négocier le Pacs qui vient avec. Alors elle nous dit, moi, soit on se quitte, ça c'est sûr, ensuite soit on négocie un Pacs, soit on n'aura rien, si vous n'êtes pas d'accord avec les termes du Pacs. Oui, c'est un peu du bluff, parce que ça veut dire quoi, rien? D'abord, ça ne veut pas dire rien. Elle a dit dans son discours tout au début qu'elle allait intégralement reprendre l'acquis communautaire, qu'elle allait intégralement le reprendre, c'est-à-dire transformer dans un premier temps toutes les lois européennes en lois britanniques. Alors, si c'était si mauvais, il n'aurait peut-être pas fallu les garder, mais en tout cas, elle a dit dans un premier temps, je prends tout. Donc, ce n'est pas un vide juridique complet. Mais quand même, ça veut dire qu'en matière commerciale, sortant du marché unique, elle se retrouverait dans un statut de base OMC vis-à-vis de l'Union européenne. Et ça, ça aurait des conséquences économiques et financières, évidemment pour les Européens. Mais encore une fois, les Européens se les divisent à 27, mais très très lourdes pour son pays. Donc il y a quand même un effet de levier dont elle présume un tout petit peu de ce point de vue-là.
Pauline Schnapper, j'ai vu que vous vouliez intervenir. Je profite juste avant pour vous glisser juste une toute petite question, et puis je vous laisserai librement réagir. Mais il y a la semaine prochaine quand même quelque chose d'important qui va se passer, puisque la Cour suprême du Royaume-Uni doit se prononcer pour savoir si Theresa May précisément doit soumettre ou non la procédure de divorce, pour reprendre l'expression d'Yves Bertoncini, c'est-à-dire l'article 50, à un vote du Parlement. Dans le cas où elle serait obligée de soumettre cet article 50, ce déclenchement du divorce au Parlement, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où finalement les parlementaires s'y opposent ?
Deux petites choses. Juste un mot pour revenir sur l'affaire du bluff, sur cette histoire de pas d'accord du tout. Oui, bien sûr, il y a une part de bluff, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est ce que réclame le pas d'accord du tout. C'est ce que réclament les plus enragés des Brexiteurs depuis le début, hein, les Farage et autres. C'est on rompt complètement les liens dès aujourd'hui, on va sous l'OMC et on verra plus tard à essayer de trouver un accord de libre-échange avec l'Europe. Donc là encore, c'est aussi un signal envoyé à cette partie-là de la classe politique pour les rassurer. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Farage et toute sa clique ont été absolument ravis de ce discours. C'est ce qu'ils voulaient entendre. Donc il y a une part de bluff, encore une fois, un discours adressé aux Européens d'un côté, mais il y a aussi un discours, faites-moi confiance, sur le plan intérieur.
Sur la Cour suprême et le vote du Parlement.
Sur la Cour suprême, en théorie, il faut bien voir qu'il n'y a pas de majorité parmi les députés pour le Brexit au Parlement. Donc en théorie, le Parlement pourrait, sur le plan juridique, serait tout à fait capable et légitime, enfin, légitime n'est peut-être pas le terme, mais juridiquement pourrait refuser le Brexit. Ça supposerait notamment qu'il y ait alors l'ensemble des députés travaillistes, les indépendantistes écossais, qui sont la troisième force du Parlement, les libéraux démocrates et les quelques députés conservateurs pro-européens, il y en a quand même quelques-uns, se mettent ensemble et votent contre le déclenchement de l'article 5.
Ça vous paraît possible ?
Non.
D'accord.
C'est juridiquement possible, ça n'arrivera pas, tout simplement parce qu'il y a eu un vote populaire et que même les députés qui, personnellement, sont contre le Brexit, n'auront jamais le courage. Et ils ont d'ailleurs un argument à dire, le peuple a voté, je ne peux pas aller contre le peuple, quoi que j'en pense personnellement. D'autant plus, je finis là-dessus, que beaucoup de députés travaillistes et beaucoup de députés anti-Brexit ont vu dans leur circonscription un vote pour le Brexit. Et donc, ils songent à leur prochaine réélection. Et ils savent que leur électorat est pour le Brexit.
Maximo.
À la fin de ce processus, donc dans 2 ans, dans le meilleur des cas, il faudra de nouveau un vote du Parlement. Avec probablement, entre-temps, il y aura une nouvelle chambre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un retournement, entre-temps, de l'opinion? Parce qu'on est quand même dans une situation paradoxale. Les Britanniques avaient voté en leur temps par référendum quasiment à plus de 70% pour rentrer dans l'Union européenne. Globalement, ils ont surtout eu des bénéfices de l'Union européenne, qui est en plus une union qu'en bonne partie ils ont faite à leur image, avec plutôt un grand marché unique et très loin de tout rêve fédéral. Donc, ce vote était effectivement un vote irrationnel pour des raisons psychologiques variées, mais est-ce qu'on peut imaginer justement un espèce de retour au rationnel ?
Pauline Schnapper.
Alors, en théorie, on aurait pu effectivement plus l'imaginer qu'un vote contre dans les semaines qui viennent, puisqu'il y aura un vote sur l'accord qui sera trouvé ou pas d'ici 2 ans. Donc, on pourrait imaginer, en théorie, que dans les 2 ans qui viennent, l'opinion se retourne.
Encore ce qu'il y a de mieux pour la Grande-Bretagne, d'une certaine façon.
Pour l'instant, on manque de recul, évidemment, on n'a que 6 mois. Pour l'instant, il n'y a aucun changement dans les sondages. la situation de l'opinion publique n'a pas changé depuis juin dernier. Ça ne veut pas dire que dans
elle
les
ne va pas changer.
Elle va pas changer évidemment dans les deux ans qui viennent. Par ailleurs, évidemment, Madame May y a déjà pensé et donc elle a fait savoir dans le discours d'il y a deux jours que le vote qui aurait lieu au Parlement sur cet accord, ça ne serait pas le choix entre cet accord et rester dans l'Union européenne, ça serait cet accord et rien du tout, c'est-à-dire une sortie sèche de l'Union européenne. Et donc les députés vont être coincés.
Yves Bertoncini.
Les Britanniques ont décidé de quitter la maison européenne, donc ils déménagent. Sauf qu'ils n'ont pas encore totalement pris conscience du coup, du déménagement, et surtout ils n'ont pas visité la nouvelle maison. Ils n'ont pas visité la nouvelle maison. Donc qu'est-ce que ça va donner les prochains mois, les prochains semestres? C'est, on va dessiner les plans de la nouvelle maison. Là, Madame May a fait les plans sur la comète. Elle a dit, voilà, moi je veux une maison sur mesure. Ça ne va pas ressembler à ce qu'ont les Norvégiens, les Turcs, les Suisses, les Canadiens. Non, ça va être juste pour nous. Peut-être va-t-elle y arriver. En tout cas, à la fin de ce processus, les Britanniques auront davantage pris conscience des coûts du fait de changer de maison, parce qu'il y a déjà quand même des coûts économiques, financiers, l'inflation repart, il y a des incertitudes, des délocalisations d'emplois. Il y a certainement aussi des avantages, mais il y a des coûts. Donc ils vont faire le bilan général à la fin des deux ans et demi. Ils vont pouvoir constater ce que sera cette nouvelle maison, le nouveau statut, le nouveau partenariat, le Pax. À ce moment-là, est-il politiquement et intellectuellement possible qu'un nouveau Parlement, parce que je crois qu'il faudrait une nouvelle campagne électorale, quelque chose qui relégitime, y compris Theresa May, d'ailleurs, parce que c'est ça son problème, c'est qu'elle a une faible légitimité. À ce moment-là, est-ce qu'il est intellectuellement et politiquement possible qu'on inverse le sens de l'histoire? Je vais vous dire, je ne le souhaite pas, moi. Je trouve que ça serait un mauvais service à rendre à nouveau à la construction européenne, à l'Union européenne. D'abord parce qu'on dirait encore qu'on ne respecte pas les verdicts populaires, alors qu'il n'y a aucun problème pour respecter ce verdict. Ce n'est pas une prison, l'Union européenne. Les pays choisissent d'y rentrer, ils choisissent d'en sortir. C'est shakespearien, si on en revient au niveau britannique. S'ils voulaient changer d'avis, qu'est-ce qui les en empêche, théoriquement? Mais je vous dis, moi, politiquement, je ne le souhaite pas. Et j'entends bien ce que vient de dire Polly Schnapper sur le fait que Theresa May, même si elle avait fait campagne pour rester, maintenant, elle est la première ministre qui a été... chargée de délivrer, comme elle dit, cette sortie. Donc je crois que le plus logique, c'est qu'elle la délivre, effectivement, et que les Britanniques, et après tout, ils ont toujours été un pied dedans, un pied dehors, jamais follement convaincus, pas forcément pour des raisons irrationnelles, mais pour des raisons qui tiennent à leur, à leur souverainisme, à leur histoire, à leur géographie, à leur exceptionnalité, d'ailleurs, je dirais, à leur insularité. Eh bien, je crois qu'ils resteront quand même, sans doute, sur cette idée que pour ces raisons-ci, indépendamment des coûts qui vont leur apparaître d'autant plus grands au fil des semestres, eh bien, c'est la sortie qui est la perspective la plus probable et la plus souhaitable.
Pauline Schnapper, sur cette question de l'Écosse et de l'Irlande du Nord dont parlait tout à l'heure Marc Sémo, qui s'oppose, on le redit, à la sortie de l'Union européenne, les votes effectivement respectivement c'était 62% pour un maintien et puis je crois pour l'Irlande du Nord un peu plus de 55%. On a cette première ministre nationaliste Nicola Sturgeon qui elle dénonce toujours cette sortie, qui dénonce évidemment les conséquences que ça pourrait avoir sur l'économie écossaise. Pour l'Irlande du Nord c'est aussi très compliqué parce que on a un gouvernement qui vient de démissionner avec ce vice-premier ministre Martin McGuinness, il y a donc des nouvelles élections qui vont avoir lieu. Dans quelle mesure est-ce que ça peut constituer un obstacle pour Londres? Pour le dire autrement, est-ce que les Anglais ont les moyens de décider et d'agir malgré les oppositions de l'Irlande du Nord et particulièrement de l'Écosse?
Oui, tout à fait. La seule chose à laquelle le gouvernement May s'est engagé, c'est à associer les gouvernements dévolus, donc d'Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles, aux discussions, à la mise en place de la politique, si vous voulez, au policy making à Londres. Mais en réalité, il est très clair déjà qu'elle n'a aucunement l'intention de tenir compte de l'avis des Écossais et des Nord-Irlandais, pour encore une fois des raisons électorales évidentes. La population anglaise représente 85% de l'ensemble du Royaume-Uni. En gros, l'Écosse 10%, c'est pas les Écossais qui vont décider de la politique britannique. Ça, c'est très clair. En revanche, évidemment, en faisant cela, Theresa May prend un risque énorme, une fois de plus, qui est d'affaiblir l'unité du Royaume. Alors, Nicola Sturgeon a déjà menacé donc d'organiser si elle. Alors, au départ, c'était si l'Écosse était forcée contre son gré de sortir de l'Union européenne. Ensuite, ça a été si l'Écosse ne pouvait pas garder un accès au marché unique, d'organiser un deuxième référendum dans les deux ans qui viennent. C'est-à-dire, on parle là à échéance très courte. Ouais. Mais en réalité, c'est ce qu'il faut bien voir, c'est que pour l'instant, là, on est de nouveau dans le bluff. C'est-à-dire que Nicola Sturgeon menace, mais la réalité économique et politique de l'Écosse aujourd'hui ne la met pas du tout dans une bonne situation, dans une bonne position pour éventuellement gagner un tel référendum. Il n'y a rien qui indique dans les sondages que le rapport de force entre pro et anti-indépendance en Écosse ait changé depuis le premier le référendum en septembre 2014. On est toujours à 55 pour rester dans le Royaume-Uni, 45 pour en sortir. Par ailleurs, la situation économique de l'Écosse s'est nettement détériorée depuis 2 ans à cause de la chute du prix du pétrole, qui est quand même une de leurs principales richesses. Et donc, si vous voulez, l'argument économique, il vaut mieux être dans l'Europe que dans le Royaume-Uni, est un peu fragile, puisque pour l'instant, c'est bien le Royaume-Uni qui finance l'Écosse.
Maxime. Yves Bertoncini, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, évidemment, les regards vont être tournés du côté des États-Unis. Donald Trump va être investi. Et on a entendu, bien sûr, ces récentes attaques, nouvelles attaques à l'égard de l'Union européenne, affirmant à propos du Brexit que c'était une bonne chose, que c'était un succès, qui serait probablement suivi d'autres sorties et que c'était même souhaitable, de son point de vue en tout cas. Lui mise très clairement, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, sur un délitement progressif de l'Union européenne. Dans quelle mesure est-ce que l'arrivée de Donald Trump fragiliser l'Union européenne selon vous, et est-ce que son arrivée à l'Union européenne, à la Maison Blanche pourrait constituer précisément pour Theresa May, pour les Britanniques, un atout dans ces négociations? Yves Bertoncini.
L'arrivée de Donald Trump, c'est à la fois un risque et une opportunité pour les Européens. C'est un risque parce que ça ajoute un troisième grand partenaire après Poutine, après les Britanniques, maintenant les États-Unis d'Amérique. 3 membres du Conseil de sécurité qui vont essayer de nous diviser, nous, Européens, pour des raisons différentes, certes, et qui pourraient même s'entendre sur notre dos. On voit bien ce que dit Trump et en direction de Poutine, ce qu'il dit en direction de Theresa May. Donc oui, c'est un risque à mains égards. Donald Trump a plus de pouvoir sur l'Europe et sur le monde qu'il n'en a au sein des États-Unis d'Amérique, qui est un pays fédéral. Donc c'est un risque de déstabilisation, c'est même un tournant, parce que si vraiment l'OTAN est obsolète et ne sert plus à rien, alors qui nous protège? Et c'est en cela que ça peut être cependant une opportunité, parce qu'au fond, notamment en matière de sécurité collective, il y a des menaces qui nous entourent. Terrorisme islamiste, pas seulement Vladimir Poutine, la Syrie, le chaos libyen, etc. Mais il y a la nécessité d'y faire face. D'abord, il y a beaucoup de coopération policière, judiciaire à mettre en place. Ça concerne un peu moins les États-Unis, sauf les échanges de renseignements. Puis surtout, il y a des enjeux de défense, de sécurité. On parlait juste avant du Mali. Et donc les Européens, et on le voit, se disent qu'ils doivent se prendre en main. Ils doivent se prendre en main et d'une certaine manière, Donald Trump va les y aider parce qu'il va dire avec sa brutalité coutumière, ce que disait déjà Barack Obama. Allez, réveillez-vous, dépensez un peu plus pour votre défense, et plusieurs Européens vont le faire. Et donc, d'une certaine manière, ça peut être une opportunité, de ce point de vue-là, redonner un sens à la construction européenne en matière de sécurité collective. Et puis, il y a un autre élément, je le dis, parce que si on rapproche le Brexit de Trump, ces pays anglo-saxons qui ont engendré la crise financière, ce n'est pas les Grecs et les Polonais qui ont créé les subprimes, qui pratiquent une mondialisation sans grande protection sociale. La mondialisation aux États-Unis, c'est sûr que c'est du brutal. C'est pas comme en Suède ou au Danemark, l'ouverture commerciale sans parachute. La dérégulation financière, j'en ai parlé, le rapport à la protection de l'environnement, que Donald Trump... Le fait que, puisqu'on a dit que Theresa May joue au poker menteur, lui, Donald Trump, il joue au chamboule-tout, lui, c'est un autre jeu. Eh bien, tout ça, ça devrait pousser à affirmer davantage un modèle européen. Ce qui nous unit, nous, les Européens. Oui, nous ne sommes pas complètement comme les Américains, même si ça devrait et ça doit rester.
Ça devrait, mais vous y croyez?
Mais c'est Donald Trump qui en décidera. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit Angela Merkel, notre destin est entre nos mains, plus que jamais.
Marc Sémo.
Oui, à ce sujet, on voit d'ailleurs, pour aller dans votre sens, d'opportunité, d'électrochoc, que le Brexit a eu un effet repoussoir. On l'a vu dans les élections présidentielles en Autriche, où le candidat de l'extrême droite, europhobe, qui s'est joué à quelques voix avant, dans ce retour, dans cette nouvelle élection, il a perdu. On le voit dans les sondages, y compris en France, par rapport au Front National. Donc, disons, le Brexit montre à quel point c'est difficile, c'est une aventure, etc. Et donc, justement, est-ce qu'il n'y a pas cette réalité aujourd'hui
d'une réelle opportunité, et c'est aussi valable par rapport à Trump.
Yves Bertoncini et puis Pauline Schnapper. Yves Bertoncini.
Oui, ce qui prouve que Donald Trump ne connaît pas grand-chose à l'Europe, c'est qu'effectivement, il prédit de nouveaux Brexit. Moi, je dirais que les nationalistes devraient être nationalistes jusqu'au bout. Si les Britanniques veulent sortir, c'est parce qu'ils sont exceptionnels. Mais il y a une exception britannique depuis le début. Ils avaient d'ailleurs un statut très particulier, très particulier. C'était les plus près de la porte de sortie, hein, parce qu'ils n'étaient pas dans l'euro, pas dans Schengen. Alors maintenant, regardons le continent. Sortir de l'Union européenne, par exemple, pour les Français, c'est aussi sortir de l'euro. Et c'est sortir de Schengen. Ça rajoute deux couches supplémentaires à la sortie des Britanniques. Ce que nous voyons, c'est que, effectivement, puisque le Brexit, c'est le bazar, le Brexit, c'est le brouillard, c'est une contre-publicité pour les europhobes. Et je distingue bien les europhobes, c'est-à-dire ceux qui détestent tellement l'Union européenne qu'ils veulent en sortir. Et les Britanniques avaient une exceptionnalité. Leur tabloïd, on ne trouve ça nulle part ailleurs en Europe, les presses tabloïdes qui s'acharnent sur l'Union européenne à longueur de journée. Les europhobes, qui ont été majoritaires le temps d'un référendum au Royaume-Uni, ils ne sont pas majoritaires, ils sont même en retrait dans beaucoup de pays. Et vous avez mentionné l'Autriche. L'europhobie du FPE lui a sans doute coûté la victoire à l'élection présidentielle. Des eurosceptiques. Alors, les eurosceptiques, en revanche, il y en a pas mal. Il y en a en France. L'euroscepticisme des Français n'est pas le même que l'euroscepticisme des Finlandais, qui n'est pas le même que l'euroscepticisme des Grecs. Les eurosceptiques sont très puissants partout en Europe, pour plein de raisons. L'Europe a agi, elle a déplu, pour des raisons parfois contradictoires. Mais ça ne veut pas dire sortir. Ça veut dire autre chose, je termine là-dessus, qui peut aussi être fâcheux. On reste, mais on se querelle. C'est la crise de copropriétaires. C'est pas beaucoup mieux, parce que on reste. Regardez, Monsieur Orban, il veut pas partir, il reste. Mais il empêche la maison de fonctionner correctement. Il est perturbateur. Une crise de copropriétaires, c'est ce qui caractérise aujourd'hui l'Union européenne. Je crois que, pour boucler la boucle, si les Européens regardent un tout petit peu au dehors de leurs frontières, justement, regardent le monde tel qu'il est, plein d'opportunités, mais aussi lourd de risques, alors ils vont peut-être s'éloigner un peu de leurs querelles qui sont parfois un petit peu picrocollines, et puis se dire que l'Union fait la force face à M. Trump, M. Poutine, l'État islamique, et peut-être maintenant la sortie des Britanniques si elle est conflictuelle.
Pauline Schnapper, on arrive presque au terme de cette émission.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est le seul point positif des événements de 2016, si je puis dire, Brexit et l'élection de Trump, c'est de rappeler quand même aux Européens les valeurs qui les unissent. S'il y a ce petit sursaut démocratique, c'est une bonne chose. Il n'en reste pas moins, effectivement, que les inquiétudes sur un affaiblissement de l'intérieur de l'Europe peuvent rester. Sur peut-être dernier point sur Theresa May, le gouvernement May ne souhaitait pas la victoire de Trump. Mais puisqu'il est là, elle s'est réjouie, le gouvernement s'est réjoui que Trump fasse ces espèces d'appels du pied sur « c'est très bien, on va signer un accord de libre-échange ». Mais je pense que très vite, les Britanniques vont se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus proches de nous qu'une administration Trump.
D'accord, elle le voit aujourd'hui comme un allié. Elle le voit comme un allié aujourd'hui, mais ça pourrait ne pas durer.
L'OTAN, la Russie, le climat et toutes les questions culturelles sur lesquelles on est aux antipodes de Trump et de ses alliés et des gens qu'il a nommés. Je pense pas du tout que la relation Londres-Washington va être particulièrement facile dans les années qui viennent, même si Trump a lancé comme ça des promesses en l'air sur un accord de libre-échange qui serait signé rapidement.
Oui, surtout que je crois que les textes européens ne permettent pas de le faire. Tant que vous n'êtes pas sorti de l'Union européenne, vous ne pouvez pas signer de nouveaux textes.
Absolument.
Enfin, Trump n'en a que faire. Hein. Il a dit qu'il allait signer de toute façon quelque chose avec la Grande-Bretagne.
Hein. Oui, c'est le chamboule-tout. Mais je ne sais pas si un joueur de chamboule-tout et une joueuse de poker peuvent s'entendre si facilement que ça. Dans un contexte international où il y a effectivement maintes autres défis, je dirais que les Britanniques se sont rajoutés ça, nous aussi, hein, les Européens, on doit gérer ce divorce, il faut le gérer. Il y a tellement d'autres défis qui nous entourent. Là, les terroristes islamistes nous tuent, ils ont tué encore récemment à Berlin. Vladimir Poutine nous menace, le chaos partout. Donc, bien sûr qu'il y aura du temps à passer. Je crois que monsieur a placé dans ce divorce ou dans ses futures relations américano-britanniques. Mais je crois que si on se situe du point de vue de Trump, pour lui aussi, hein, semble-t-il, ce ne sera pas forcément sa priorité numéro un. Il a quand même lancé d'autres pics, d'autres perspectives vis-à-vis de la Chine, notamment du Mexique. Donc je ne suis pas sûr que le Brexit, ça va constituer sa priorité diplomatique principale.
Texture like sun lays me down with-
Merci beaucoup à vous, Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, Pauline Schnapper, professeur de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle, auteur, je le rappelle, de Royaume-Uni. Doit-il sortir de l'Union Européenne? C'était en 2012, Pauline Schnapper.
Bizarrement, ils n'ont pas écouté.
Merci beaucoup et merci également à Marc Semo, bien sûr journaliste au Monde, notre partenaire le vendredi. Je rappelle que demain, on va poursuivre justement ces questions qu'on évoquait ce matin dans la matinale du samedi avec Caroline Brouet. Brexit, Trump, l'occasion d'un sursaut européen, point d'interrogation. C'est Nicole Fontaine qui sera ici à ce micro, qui est l'auteur de Brexit, une chance, point d'interrogation, repenser l'Europe, qui est paru en juin dernier. Elle était bien sûr, on s'en souvient, président du Parlement européen de 1999 à 2002, si mes souvenirs sont bons. Mais tout de suite sur France Culture, il est presque 11h53, l'heure de retrouver le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors demain samedi, au lendemain de l'investiture de Donald Trump, une marche des femmes partira à 13h15, heure locale de l'Independence Avenue, à deux pas du Capitole. Qui a pris l'initiative de cette manifestation et quel but vise-t-elle?
Eh bien, l'idée de la marche des femmes sur Washington est née sur Facebook. Teresa Shook, procureure en retraite qui vit à Hawaï, crée au lendemain de l'élection de Donald Trump une page appelant les femmes à protester. Elle est rapidement rejointe par une styliste de mode de Brooklyn, Bob Bland. Des dizaines de milliers de femmes s'inscrivent en quelques jours sur leur page. Toutes font le même constat. Comment une majorité des États américains, et non pas des Américains eux-mêmes, a-t-il pu voter pour un tel personnage? Trump est connu pour ses sorties publiques sur le physique des femmes, un sujet ultra sensible aux États-Unis, sans parler des propos privés dont il est plus délicat de faire état, primo parce que ceux qui prétendent en rapporter ne sont pas nécessairement de bonne foi et fiables, deuxio parce que les coulisses des plateaux de télévision où Trump a bâti sa légende ne sont pas nécessairement régies par les mêmes codes de comportement que les tribunes électorales. Mais tout de même, à une animatrice de Last Week Tonight, le show satirique de HBO, en pleine campagne électorale, Trump lance un soir. Vous pouvez toujours dire, et c'est politiquement correct, que l'aspect physique ne compte pas, mais manifestement ça compte. Vous, par exemple, vous n'auriez pas eu le job si vous n'étiez pas magnifique. Non seulement Trump fait publiquement allusion au physique des femmes, mais il n'hésite pas à s'en prendre à celui de celle qui le critique. Dans ce registre, le pire tweet signé Trump était ainsi libellé. Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut satisfaire l'Amérique ?
Alors, Brice, quel problème cette marche soulève-t-elle, en tout cas du point de vue de la presse américaine ?
Eh bien, premier problème, malgré l'épouvantable réputation du candidat républicain, et le fait que pour la première fois de son histoire, le Parti démocrate proposait une candidate, eh bien la majorité des femmes blanches, 53%, a voté pour le républicain et non pas pour la démocrate, quand 94% des femmes noires, elles, ont voté Hillary Clinton. Ella Whelan, éditorialiste du site Spiked, s'énerve qu'on mette ce choix sur le compte d'une haine de soi ou bien qu'on accuse les femmes qui ont fait ce choix de trahison envers leur sexe. Cette élection prouve une chose, écrit-elle, c'est que demander aux femmes de voter sur la base de leur genre plutôt que de leurs idées politiques, ça ne marche pas. Fin de citation. En effet, les Américains votent de plus en plus en fonction de leur appartenance ethnique. Il s'est communautarisé, le vote. Très vite sont venues les contestations et la première a porté sur la question raciale, écrit de son côté Gia Tolentino dans le New Yorker. Teresa Shook avait d'abord appelé à une marche d'un million de femmes, mais le slogan rappelait trop la marche d'un million de femmes noires qui a eu lieu à Philadelphie le 25 octobre 1997. Les militantes noires ont protesté. Sous leur pression, les organisatrices de la marche ont accepté de changer l'intitulé de leur appel et ont insisté sur le caractère intersectionnel de leur mouvement. Sont invités à la marche des femmes, blanches ou noires, mais aussi, est-il précisé, les Asiatiques, les originaires des îles du Pacifique, les femmes trans, les femmes handicapées, les hommes et les enfants. Bob Bland a appelé les femmes blanches qui participent au mouvement à, je cite, « comprendre leurs privilèges et à reconnaître la lutte des femmes de couleur ». Des échanges assez vifs ont eu lieu sur la page Facebook entre militantes féministes noires et blanches. Rosie Campos a posté sur la page Facebook en question « Chères femmes blanches, ceci ne nous concerne plus ». Le mouvement s'est doté de quatre codes présidente nationale, soigneusement sélectionnée pour représenter la diversité, une leader communautaire noire, proche d'Obama, Tamika Mallory, une avocate représentant les Latinos, Carmen Pérez, une palestinienne qui milite pour la fermeture des écoles publiques de New York lors des fêtes musulmanes, Linda Sarsour, et la styliste Bob Blunt, styliste blanche donc, mais qui se réclame du commerce éthique. Mais les divisions s'étalant au grand jour, les médias conservateurs ont adopté envers l'initiative le ton de la raillerie, en particulier lorsque des groupes de militantes anti-avortement ont demandé leur participation à la marche, ce qui leur a d'abord été accordé, puis refusé. Ou lorsqu'un syndicat de prostituées a connu le sort inverse, exclu, puis réintégré parmi les associations organisatrices. Alors, ce que tout cela prouve, estime Gia Tolentino, c'est que, je cite, « Facebook est à la fois le meilleur endroit pour atteindre les gens et le pire s'il s'agit de mener une discussion politique. Mais l'essentiel à ses yeux, c'est, je cite, qu'un nombre significatif de personnes convergent vers Washington pour exprimer leur conviction qu'un pays dirigé par Trump met en danger leur propre liberté et les libertés de ceux qu'elles aiment. » Fin de citation. En tout cas, Donald Trump entame son mandat sous le signe d'une profonde division des États-Unis. Les politiciens populistes sont clivants par nature, c'est en polarisant l'électorat qu'ils se font élire, une fois au pouvoir, qu'ils ne s'étonnent pas de ne pas provoquer le réflexe d'unité nationale qui suit ordinairement l'élection des présidents aux États-Unis.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. Et je rappelle qu'il y a d'autres programmes aujourd'hui sur France Culture qui seront consacrés à cette question de la marche des femmes de demain. Un grand merci. On peut retrouver bien sûr toutes vos chroniques, mais aussi l'émission Culture Monde sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. D'ailleurs, je profite du temps qui nous reste pour remercier les auditeurs parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter. On a appris ça hier, des résultats excellents, des bons taux d'audience. Donc merci beaucoup à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous écouter chaque jour. On sera là, évidemment, encore la semaine prochaine. On vous proposera toute une série autour de l'Asie centrale. Une série qui sera, j'en suis sûr, absolument passionnante. En tout cas, merci beaucoup encore à tous nos invités.